VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous et à toutes, le monde aujourd'hui, édition du vendredi 17 mai 2019, en direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Au Mali, 4 militaires ont été tués dans une embuscade de djihadistes présumés dans la région de Mopti.
Le Burkina Faso demande la création d'une coalition internationale pour lutter contre le terrorisme et la criminalité au Sahel.
Au Gabon, le gouvernement suspend plusieurs hauts responsables en rapport avec la disparition fin avril de centaines de conteneurs chargés de Kévasingo.
Ici à Washington, le président Donald Trump a dévoilé hier son plan de réforme de l'immigration, mettant l'accent plus sur le mérite que les liens familiaux.
L'Iran rejette l'offre de dialogue du président Trump pour mettre fin à l'escalade des tensions dans le Golfe.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
4 militaires maliens ont été tués jeudi par des djihadistes présumés. Ces militaires sont tombés dans une embuscade dans la région de Mopti, dans le centre du Mali. Des détails avec Jean-Roger Bion.
L'attaque s'est produite vers la mi-journée dans le secteur de Diafarabé, a affirmé l'armée malienne dans un communiqué la qualifiant d'embuscade. Au cours de cet accrochage, les FAMA, les forces armées maliennes, déplorent, vous l'avez souligné, 4 morts. Selon un élu de Diafarabé, ce sont des militaires en patrouille à 14 kilomètres de la ville qui se sont battus contre les djihadistes. Les assaillants ont emporté des armes lourdes, d'après cet élu. Depuis 2015, des violences sont en cours dans le nord et le centre du Mali, se mêlant très souvent à des conflits intercommunautaire, un phénomène que connaissent également le Burkina Faso et le Niger voisin. Pour rappel, le nord du Mali était tombé en mars-avril 2012 sous la coupe de groupes djihadistes en grande partie dispersés par une intervention militaire lancée en janvier 2013 à l'initiative de la France et qui se poursuit actuellement. Mais des zones entières échappent au contrôle des forces maliennes, françaises et de l'ONU, malgré la signature en 2015 d'un accord de paix censé isoler définitivement les djihadistes dont l'application accumule les retards.
La lutte contre le terrorisme et la criminalité au Sahel est une responsabilité collective et il est temps que la communauté internationale envisage la création d'une coalition internationale, a affirmé jeudi au Conseil de sécurité de l'ONU le chef de la diplomatie du Burkina Faso. Ces fléaux doivent être traités avec la même détermination que celle qui a prévalu en Irak et en Afghanistan, a estimé Alpha Barry, qui s'exprimait au nom des 5 pays membres de la force G5 Sahel, Burkina, Niger, Tchad, Mauritanie et Mali. Il a rappelé les événements de ces dernières semaines, prise en otage de Français, assassinats dans des églises, décès mardi de 28 soldats nigériens. En seconde partie de cette édition, vous pourrez entendre M. Barry dans une interview exclusive à Yacouba Ouédraogo.
Au Cameroun, le ministre de la Défense, Joseph Betty Assomo, a annoncé hier que 2 soldats ont été abattus mercredi par des séparatistes embusqués dans des habitations à Bamenda, chef-lieu du Nord-Ouest, l'une des 2 régions anglophones du Cameroun, en proie à un conflit armé depuis plus d'un an.
Les suites du dossier Kévasingo au Gabon, une semaine après la disparition de 353 conteneurs du port de Libreville, l'instruction menée par les autorités judiciaires scelle le sort de plusieurs hauts cadres de l'administration publique. Ils sont plus d'une dizaine à avoir été suspendus de leurs fonctions par le gouvernement. Les précisions de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangze.
13 hauts cadres de l'administration publique sont désormais sur la sellette au sujet du détournement des conteneurs du Kévasingo, une affaire qui choque encore l'opinion publique. Ils sont 7 du ministère des Eaux et Forêts, 6 autres du département de l'économie, tous suspendus de leurs fonctions à titre conservatoire parce que selon les premiers éléments des investigations judiciaires, leur responsabilité semble avérée dans ce dossier confié au parquet de Libreville. Le communiqué lu à la télévision nationale par le porte-parole du gouvernement gabonais, Nanette Longa, dénonce sur base de la récente déclaration du procureur de la République des complicités actives et passives au niveau de la chaîne des responsabilités établie. Les membres du gouvernement qui s'est impliqué dans cette affaire sont invités à en tirer les conséquences qui s'imposent, conclut le communiqué. Signe annonciateur d'un prochain remaniement gouvernemental, rien n'est moins sûr, sauf qu'en revanche, les mesures de l'exécutif sont loin de convaincre les experts en conservation des ressources naturelles. Joint au téléphone par VOA Afrique, François Njimbi, militant écologiste, estime que les fonctionnaires incriminés servent, je le cite, de sacrifice expiatoire. Il en veut pour preuve les autorités portuaires qui ne sont pas inquiétées par les poursuites liées au détournement du quai Bazingo. Libreville, Ismaël Obionze, VOA Afrique.
Avertissement de la Croix-Rouge en République démocratique du Congo. Le grave manque de financement pourrait l'obliger à réduire ses activités de lutte contre l'épidémie d'Ebola dans l'est de ce pays. Une sortie qui intervient alors que le nombre de cas monte en flèche, Bagassikoura.
La situation est grave, a déclaré le directeur du département santé de la Fédération internationale de la Croix-Rouge, Emmanuel Capobianco, lors d'une conférence de presse à Genève. L'ampleur et la qualité des activités qui seront menées par les volontaires de la Croix-Rouge diminueront considérablement au cours des deux prochaines semaines, faute de financement supplémentaire, a-t-il dit. Depuis le début de l'épidémie en RDC, il y a eu près de 1150 décès, plus de 1700 cas confirmés et probables. Selon les derniers chiffres de l'Organisation mondiale de la santé, mais 20% de ces cas ont été signalés au cours des trois dernières semaines seulement, a révélé Capobianco, qualifiant ce pic d'alarmant. Les sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ont reçu jusqu'à présent moins de la moitié des 31,5 millions de francs suisses, soit 28 millions d'euros demandés pour financer leurs activités.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le président américain Donald Trump a présenté hier une vaste réforme du système d'immigration légale aux États-Unis, destinée à sélectionner les étrangers sur la base de leurs mérites et non plus en raison de leurs liens familiaux. L'adoption du texte au Congrès s'annonce cependant délicate. Les précisions d'Irénée Herman Ungo.
Notre plan va transformer le système américain de l'immigration en fierté pour la nation et sera admiré du monde entier, a assuré le président américain, dénonçant un système dysfonctionnel qui discrimine les génies et les esprits brillants. Selon lui, près de deux tiers des 1,1 million de permis de résident permanent, les fameuses cartes vertes distribuées chaque année par les États-Unis, vont à des immigrés simplement parce qu'ils ont un proche dans le pays et seulement 12% reviennent à des étrangers sélectionnés pour leur mérite ou leurs compétences. Donald Trump a ainsi promis de faire passer cette proportion de 12% à 57%. Cela nous rendra plus compétitifs, a-t-il lancé. Dans sa proposition, le locataire de la Maison-Blanche indique que les immigrés recevront des points s'ils ont des compétences spécifiques, une offre d'emploi, un haut niveau d'éducation ou un projet de création d'entreprise. Ils devront par ailleurs être financièrement indépendants, apprendre à parler anglais et passer un examen civique avant d'être admis sur le sol américain. Donald Trump a par ailleurs dénoncé des demandes d'asile fantaisistes et assuré qu'il allait mettre en place un mécanisme de traitement plus rapide des requêtes.
L'Iran a clairement fermé la porte jeudi à l'offre de dialogue du président des États-Unis pour mettre fin à l'escalade des tensions dont les deux pays se renvoient à la responsabilité. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a déclaré à Tokyo « Je ne sais pas pourquoi le président Trump est confiant, car c'est totalement faux ». Washington exerce une pression maximale sur Téhéran à coups de sanctions économiques depuis le retrait américain il y a un an de l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien. Mais le guide suprême iranien Ali Khamenei a assuré qu'il n'y aurait pas de guerre avec les États-Unis, tandis que Washington a martelé ne pas vouloir de conflit avec l'Iran.
La coalition menée par l'Arabie Saoudite a mené jeudi une série de raids aériens sur la capitale yéménite Sanaa, 48 heures après une attaque de drones sur un oléoduc pétrolier saoudien. Attaque revendiquée par les rebelles houthis, mais que Riyad a directement imputée à l'Iran. Ces frappes aériennes s'inscrivent dans un contexte de montée des tensions dans le Golfe, où, en plus de l'oléoduc, quatre navires, deux Saoudiens, un Norvégien et un Émirati, ont été la cible de mystérieux actes de sabotage dimanche au large des Émirats Arabes Unis.
Les autorités américaines ont annoncé hier des sanctions contre 5 Russes en raison de violations des droits de l'homme, y compris l'assassinat d'un leader de l'opposition et la torture et les meurtres de personnes LGBT en Tchétchénie. Ces mesures interviennent quelques jours après la rencontre entre Vladimir Poutine, le président russe, et le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo, où les deux puissances semblaient avoir cherché des terrains d'entente. Fin de ce journal sur VOA Afrique, vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, John Linden.
L'Angola revient en force sur le marché du pétrole. Ceci avec la découverte par la compagnie pétrolière italienne Eni d'un nouveau puits au large des côtes du pays. Un puits qui, selon les premières estimations, aurait des réserves allant jusqu'à 250 millions de barils de pétrole léger avec une production potentielle dépassant les 10 000 barils par jour. La Banque mondiale vient d'approuver une enveloppe de 15 millions de dollars au guichet de l'Association internationale de développement, IDA, en appui à l'extension du système de protection sociale et à l'amélioration de l'accès des communautés pauvres aux services de base à Djibouti. Ce financement, selon l'institution, se compose d'un crédit de 10 millions de dollars de l'IDA, l'institution du groupe de la Banque mondiale dédiée aux pays pauvres, et d'un don de 5 millions de dollars. Une nouvelle banque bientôt en activité en Guinée, selon nos confrères de Jeune Afrique qui révèlent cette information. La première banque nationale d'investissement, la BNIG, devrait être opérationnelle en octobre de cette année. C'est le fruit d'un partenariat entre l'État guinéen, représenté par le président guinéen Alpha Condé, et l'homme d'affaires camerounais Paul Fokam, président et fondateur de African First Group. La Banque nationale d'investissement de Guinée entend faciliter l'obtention des crédits aux entrepreneurs guinéen en se positionnant comme un établissement à mi-chemin entre les banques classiques qui pratiquent très souvent des taux d'intérêt élevés et les microfinances dont les offres restent limitées.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Caster Semenya, absente de la liste de départ du 800 mètres de Stockholm.
Oui, la Sud-Africaine ne participera pas au meeting de Stockholm le 30 mai, qui accueillera le premier 800 mètres de la Ligue de Diamants depuis l'application du nouveau règlement contesté concernant les athlètes hyper-androgènes. Caster Semenya, double championne olympique de la distance, mais également la Burundaise Francine Niyonsaba et la Kenyane Margaret Wambui, soit le podium des Jeux olympiques de Rio 2016, ne font pas partie de la liste de départ. Toutes les trois sont supposément concernées par le nouveau règlement de l'I2AF qui demande depuis le 8 mai à certaines athlètes hyper-androgènes de suivre un traitement pour faire baisser leur taux élevé de testostérone.
Une Africaine sur le toit du monde, pour ainsi dire.
Oui, une chef d'entreprise sud-africaine a réussi hier l'ascension du mont Everest et est devenue ainsi, selon les organisateurs de son expédition, la première femme africaine noire à poser le pied sur le toit du monde. Sarah Kumalo, 47 ans, a atteint le sommet de l'Himalaya, haut de 8848 mètres, après avoir échoué lors des trois tentatives les années précédentes. Le département népalais du tourisme a confirmé que l'alpiniste est parvenu au sommet. En 2003, un alpiniste sud-africain Sibusiso Vilan était devenu le premier homme noir à gravir l'Everest.
Bertrand Traoré intéresse Everton.
Arrivé à Lyon à l'été 2017, le Burkinabé sous contrat avec les Gones jusqu'en juin 2022 pourrait quitter le club français cet été. Auteur de 47 matchs et 11 buts toutes compétitions confondues cette saison, Bertrand Traoré n'a pas été aussi régulier que ça et d'après Yahoo Sport, le club anglais d'Everton s'intéresse à l'ailier burkinabé. Les Toffees seraient prêts à faire une offre à l'OL. Reste à savoir si les dirigeants lyonnais le laisseront partir. Bertrand Traoré avait été recruté à Chelsea contre 10 millions d'euros.
Arsenal juge inacceptable le choix de Bakou pour la finale de la Ligue Europa.
Oui, le club anglais qualifié pour la finale de la Ligue Europa qu'il disputera contre Chelsea le 29 mai à Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan. Nous sommes amèrement déçus du fait que, en raison de limitations liées au transport, l'UEFA ne propose qu'un maximum de 6 000 billets à la vente pour Arsenal, ont déploré les Gunners dans un communiqué. L'UEFA a invoqué la capacité limitée de l'aéroport de Bakou pour justifier son choix de plafonner le nombre de billets dévolus à chaque finaliste, alors que l'enceinte de la capitale azerbaïdjanaise peut accueillir 68 700 spectateurs. Les fans de Chelsea comme d'Arsenal ont déploré ces derniers jours le coût et la logistique complexe liée à l'organisation de la finale à 4500 km de Londres. NBA, pour finir avec vous Idrissa, le résultat du match numéro 2 de la finale de conférence Ouest entre Portland et Golden State.
Le double champion NBA en titre, Golden State, a été malmené à domicile par Portland jeudi, mais s'est finalement imposé 114 à 111 pour doubler la mise en finale de la conférence Ouest. Les Warriors mènent 2-0 et n'ont plus besoin que de 2 succès pour disputer leur 5e finale NBA consécutive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Sédoulia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Niger, les autorités ont décrété un deuil de 3 jours en mémoire de la 30aine de soldats morts mardi dans une embuscade tendue près de la frontière malienne par des éléments terroristes se revendiquant du groupe État islamique dans le Grand Sahara. Hier, le président Issoufou Mahamadou est allé au chevet des blessés admis dans les centres de santé de Niamey. Notre correspondant Abdulrazak Idrissa a recueilli les réactions de quelques citoyens nigériens à cette situation d'insécurité.
À Niamey, c'est encore le choc chez beaucoup de citoyens après cette terrible attaque.
J'ai le cœur lourd en parlant de ce sujet parce que c'est pas pour la première fois, ça fait la énième fois. On dirait que c'est un cycle infernal. La désolation, ça se lit sur tous les visages. Vraiment, on a le cœur brisé, tout Nigérien.
C'est vraiment très douloureux de l'apprendre. J'étais passé, même si ce n'est pas le premier événement, le premier exercice auquel les terroristes nous ont soumis. C'est quand même très affligeant.
On avait pensé que vraiment la paix était en tout cas revenue dans la zone, la frontière Niger-Mali, parce que c'était très calme. C'était très calme et puis vraiment on applaudissait. Et pour nous c'était vraiment des signes de joie que cette situation allait peut-être trouver une solution.
Passé le choc et l'affliction, l'on s'interroge sur la recrudescence de ces assauts djihadistes.
Vraiment, le président, qu'est-ce qu'il est en train de faire? À mon avis, le président doit revoir son armée, voir les placements, c'est que les gens qu'ils ont placés doivent voir ce qu'ils sont en train de faire réellement. S'ils ne sont pas à mesure de sécuriser notre pays, on n'a qu'à les enlever et chercher des... Parce que ce n'est pas ce qui manque. On a des gens qui sont vraiment valables et on sait là où ils sont. Donc, ces personnes-là, le président est interpellé aujourd'hui. Il doit faire quelque chose parce que vraiment, on est en train de... On est fatigué de cette histoire-là.
Quand on dit qu'on a tué comme ça en quelques... Je ne sais pas le temps que le combat a pris, une trentaine de soldats, et qui était au total, on dit, un détachement d'une 50aine de personnes, de militaires, mais les adversaires étaient contre. Et dans leur rang, on n'a pas encore entendu parler d'un bilan. Et qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Et beaucoup de Nigériens se posent beaucoup de questions.
Ce n'est pas une question de deuil, mais de faire en sorte que nos braves soldats ne tombent plus encore. Ça, je crois que c'est la meilleure solution. Et ça, il faut une bonne collaboration. Il faut associer tout le monde. Tous ceux qui sont capables d'apporter leur modeste contribution, ce n'est pas ces blancs-là qui vont nous aider. Je crois qu'entre nous, c'est à nous de voir comment nous allons gérer nos problèmes.
Parti au chevet des blessés à l'hôpital général de référence de Niamey, jeudi après-midi, le président Issoufou Mahamadou s'est dit convaincu que très bientôt, ces groupes djihadistes seront vaincus.
Je voudrais ici réaffirmer notre détermination, notre volonté de protéger toute l'étendue de notre territoire, d'assurer la sécurité des personnes et des biens, tôt ou tard. Ces forces du mal qui sèment la mort seront vaincues. Elles l'ont déjà été en Irak, elles l'ont déjà été en Syrie, elles le seront dans le bassin du lac Tchad et dans le Sahel. C'est ma conviction.
Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Le G5 Sahel plaide pour la création d'une coalition internationale antiterroriste, participant à une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU à New York consacrée à la situation au Sahel. Le chef de la diplomatie burkinabé, Alpha Barry, a affirmé que la lutte contre le terrorisme et la criminalité au Sahel est une responsabilité collective. Il a affirmé qu'il est temps que la communauté...
Le Conseil de sécurité des Nations Unies a effectivement soutenu la création d'une coalition internationale. C'est face à l'ampleur de la menace qui aujourd'hui n'est plus seulement dans la partie nord du Mali ou dans la partie sahélienne du Burkina, mais qui est descendue vers le centre nord du Burkina, vers l'est du Burkina, mais également vers le centre du Mali. Et vous voyez également ce qui vient de se passer dans la partie ouest du Niger face à cette menace qui se propage, mais qui risque aussi de contaminer certains pays de la partie côtière de l'Afrique de l'Ouest. Nous appelons à des moyens plus accrus. C'est pourquoi nous parlons de coalition internationale, comme ce qui s'est passé en Irak, en Afghanistan et dans d'autres pays.
Est-ce que véritablement vous vous sentez moins soutenu par rapport à la mobilisation de la communauté internationale en Irak et en Afghanistan?
Oui, mais bien entendu, nous avons tenu une table ronde, je peux dire, l'année dernière à Bruxelles, où il y a eu des engagements qui ont été pris. Ces engagements sont appréciables, mais jusque-là, la mise en œuvre est assez difficile. Nous avons besoin de financements prévisibles, nous avons besoin de financements pérennes qui puissent assurer donc une viabilité de la force conjointe sur un long terme. À défaut donc d'obtenir un mandat sous le chapitre 7 des Nations Unies, nous demandons qu'une coalition se forme, parce que la sécurité du Sahel, c'est la sécurité de l'Afrique de l'Ouest, c'est la sécurité de toute l'Afrique, c'est la sécurité de l'Europe et du monde entier.
On sait qu'il y a le G5 Sahel qui est en train de se mettre sur pied, il y a la MINUSMA au Mali, il y a les différentes forces armées nationales des pays qui composent le G5 Sahel. Qu'est-ce que vous attendez concrètement de la communauté internationale?
Le G5 est sur pied, mais n'est pas encore pleinement opérationnel. Le constat, c'est que la menace s'amplifie, la situation sécuritaire se dégrade. Nous pensons que les pays développés, notamment, doivent faire des efforts supplémentaires afin d'apporter un appui conséquent donc aux États du G5 Sahel qui font des efforts inestimables.
Alors, on sait que depuis un certain moment, le G5 Sahel mène cette campagne-là auprès de la communauté internationale. Est-ce que vous avez le sentiment, cette fois-ci, d'avoir été bien entendu et quelle serait la suite?
Nous avons été entendus, bien entendu, ça ne veut pas dire que tout est réglé. Nous continuons la discussion et les échanges avec nos partenaires et avec tous ceux qui nous soutiennent. Nous continuons aussi à notre niveau à régler ce qui reste à régler. La situation est assez difficile. Nous avons besoin donc d'une volonté beaucoup plus affichée pour aider le Sahel.
Alpha Barry, ministre burkinabé des Affaires étrangères, joint à New York.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, la sous-secrétaire d'État adjointe américaine Heather Merritt vient d'achever une visite de 48 heures à Lubumbashi. Lors de son séjour dans le chef-lieu du Haut-Katanga, la diplomate américaine a affirmé que des efforts supplémentaires doivent être fournis pour la sécurité dans la région. Compte rendu de notre correspondant à Lubumbashi, Narval Mabila.
Ed Merritt a déclaré que la criminalité est un dilemme pour tous les pays du monde. Pour elle, des efforts doivent être faits pour ramener la sécurité dans la région.
Je viens de Washington, je travaille au bureau international des typhéas et applications de la loi. Mon bureau, connu sous le nom de INL, est présent dans presque 90 pays à travers le monde entier. Et là, nous travaillons en fait pour améliorer les conditions de sécurité civile, mais également pour essayer de décourager les criminels transfrontaliers. Nous faisons ce travail parce que nous sommes convaincus que les crimes n'ont pas de frontières. Et où nous voulons que les institutions soient les plus fortes possibles pour améliorer les conditions sécuritaires des personnes, mais aussi améliorer la gouvernance du pays. Nous soutenons la vision du président de la République, Félix Tshisekedi. Le gouvernement américain soutient le programme ici à Lubumbashi pour soutenir la vision du président de la République, notamment pour améliorer les conditions de sécurité, mais aussi combattre la corruption.
À Lubumbashi, Ed Merritt s'est entretenu avec des personnalités de la province. Rémi Moussensé, bourgmestre de la commune annexe, salue l'appui américain.
Avec ces nouveaux systèmes ici de sécurité de proximité, nous les remercions parce qu'il y a des gens qui ont été formés, les policiers qui ont été formés, il y a les jeeps qui ont été données. Aujourd'hui, ils sont en train encore de construire d'autres SIAT et sous-SIAT au niveau de la commune annexe. Et cela ne suffit pas. nous espérons qu'ils vont encore intensifier cette action-là au niveau du parti nord.
La sous-secrétaire d'État a rassuré que le soutien du gouvernement américain va se poursuivre.
Aussi fort que nous sommes déterminés de pouvoir continuer cela et avec notre partenaire d'exécution, l'Organisation internationale des migrations, nous avons déjà construit 11 stations de commissariat de police mais dans la commune Kapemba, mais nous voudrions continuer cela aussi en construisant à peu près 10 autres sous-commissariats de police à commune annexe, y compris la réhabilitation du quartier général de la police.
Lubumbashi, Narval Mabila, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi, c'est sur 102.8 FM en République démocratique du Congo.
Ici aux États-Unis, le président Donald Trump a promis hier une politique migratoire destinée à sélectionner les étrangers sur la base de leurs mérites et non plus en raison de leurs liens familiaux. Ces derniers devront par ailleurs être financièrement indépendants, apprendre à parler anglais et passer un examen civique avant d'être admis sur le sol américain. M. Trump a par ailleurs dénoncé le modèle migratoire actuel faussé, selon lui, par les demandes d'asile fantaisistes. Pour une analyse, John Lindon a joint Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain aux affaires africaines.
Le président Trump a proposé des changements dans notre système d'immigration qui sont très importants, qui va changer beaucoup de choses, mais il faut pas oublier que c'est le Congrès qui doit faire passer ça dans un projet de loi. Donc c'est loin d'être fait.
En annonçant cette nouvelle initiative, Donald Trump dit vouloir stopper l'immigration illégale et surtout établir un nouveau système basé sur le mérite. Qu'est-ce qui motive ce changement à ce moment précis?
Il croit que le système actuel laisse entrer des gens qui sont honnêtes, mais qui fournissent pas grand-chose au pays, n'est-ce pas? Il manque d'éducation, il manque de métier, etc. Donc, il voudrait inviter des gens qui ont de l'éducation, qui sont importants dans la technologie, des choses comme ça, et de donner des points aux gens pour décider qui va être autorisé à venir.
Donald Trump semble pointer du doigt certaines failles du système. Il parle des demandes d'asile fantaisistes. Il parle de la loterie américaine qui n'envoie pas ici aux États-Unis des gens qualifiés, en parlant de 12% de personnes qualifiées. Est-ce qu'il y a des possibilités que la loterie américaine, pour ne prendre qu'elle, puisque beaucoup d'Africains viennent aux États-Unis par ce système, est-ce qu'il y a lieu de penser que ce système sera annulé simplement?
Si le Congrès est d'accord avec président Trump, ce sera annulé, tout à fait. Seulement les gens qui ont du mérite par l'éducation, par métier, par leur réputation, etc., seront invités à venir.
Il parle également du fait que les immigrants devront désormais apprendre l'anglais et passer un test d'éducation civique. Cela se fait déjà pour ceux qui veulent obtenir la nationalité américaine, non?
Oui, avant d'être accepté après 5 ans de résidence comme immigrant, vous avez le droit de demander d'être citoyen. Et il faut passer un examen sur votre connaissance de l'histoire des États-Unis, des lois des États-Unis, etc. Et aussi, si vous êtes capable dans la langue anglaise, ça existe déjà pour être citoyen. Je crois que ce que le président demande, c'est que les immigrants, avant de venir, soient déjà qualifiés dans la langue.
Alors, il va se poser certainement au Congrès et au Sénat un débat, celui de qui peut lâcher quoi pour obtenir quoi.
Je crois que les démocrates qui contrôlent la Chambre des représentants vont refuser parce qu'ils n'ont rien fait pour les 11 millions de gens qui habitent aux États-Unis, des étrangers qui n'ont pas de papier. Ils sont là depuis 20, 25 ans, ils travaillent, ils paient des impôts, mais ils n'ont pas de papier, ils n'ont pas de passeport. Et les démocrates insistent qu'on régularise ces gens-là, mais le président Trump refuse de faire ça.
L'ancien secrétaire d'État adjoint américain aux affaires africaines, Herman Cohen.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos,
et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Nachwan Kale. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idriss Assedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Le Monde aujourd'hui, édition du vendredi 17 mai.